Je crois à l'influence immense des images.
On voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes, des jeunes femmes qui se sont dit « Mais le son, ça m'intéresse. Il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie. »
Offrir au monde tous ces récits manquants, toutes ces femmes, toutes nos mères, toutes ces femmes noires qui n'ont pas eu la parole.
Il y a des filles à la régie, à l'administration.
Et puis ensuite, elles ont été aussi souvent filmées par des hommes. Donc là, on ouvre une nouvelle page de cette histoire.
Notre silence ne nous protégera pas. Eh ben, j'ai envie de dire ce soir que nous ne nous tairons plus. Merci beaucoup.
Aucune image de la télévision ne veut ou ne peut nous refléter. C'est avec la vidéo que nous nous raconterons. Dans le courant des années 1970, les réalisatrices Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig, Johanna Weder et Nadja Rengart créent le collectif Les Insoumuses, par lequel elles apprennent à utiliser le format de la vidéo, qui est alors un médium nouveau, peu enseigné et rarement utilisé. Par ce biais, elles réalisent des vidéos militantes qui suivent les soulèvements féministes de cette époque. Elles couvrent alors les luttes pour la légalisation de l'avortement, avec « Y'a qu'à pas baiser » en 1971, la misogynie ordinaire à la télévision dans « Mazo et Mison vont en bateau » en 1975, ou le sexisme auquel font face les actrices dans « Sois belle et tais-toi » en 1981. Autant de réalisations précieuses qu'elles ont conservées en créant en 1982 le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, destiné à l'archivage, à la production et à la diffusion de la création des femmes. Cette question de la vidéo légère, elle est fondamentale dans l'histoire du cinéma militant. En s'appropriant cette technique, les Insoumuses se créent leur propre espace d'expression, à travers un médium financièrement accessible qui leur permet de militer, en se réappropriant les moyens du cinéma et en se créant leur espace de liberté. Aujourd'hui encore, la question d'une contre-culture et d'un cinéma militant est intrinsèquement liée à la question d'un format, financièrement et techniquement accessible, qui permette de se créer un espace de parole dédié, et de contourner les circuits de distribution et de diffusion habituels pour revendiquer le fait d'être en marge. C'est à ce cinéma militant que la Cinémathèque du documentaire et la BPI ont souhaité rendre hommage à travers leur cycle intitulé « Contre-champ, lutte collective, film féministe » qui se tient du 19 avril au 4 juillet à Paris, à la Cinémathèque du documentaire de la BPI. L'occasion de présenter sur grand écran ces archives fondamentales du Centre Simone de Beauvoir, mais aussi de les mettre en perspective avec des créations plus contemporaines, comme celle du collectif La Poudrière, un collectif de femmes féministes et cinéastes de l'atelier de l'Etna à Montreuil, mais aussi de créer des ponts avec d'autres pays, le Brésil avec Luisa Marquez ou le Cameroun avec Rosine Bacam. Un cycle dont nous sommes fièrement partenaires et sur lequel nous allons revenir aujourd'hui. Je suis Mariana Agier et pour cet épisode de Sorociné dédié au cycle Contre-Change, j'ai à mon micro Diane Lestage. Bonjour Diane.
Bonjour.
Et Nicole Fernandez-Ferrer, coprésidente du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, également partenaire de cette programmation. Bonjour Nicole.
Bonjour.
Nicole, vous êtes archiviste, programmatrice et traductrice. En 1982, vous avez participé à la création du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Puis vous avez travaillé comme documentaliste et programmatrice pour plusieurs institutions et festivals, notamment le Festival du film de femmes de Créteil, dont nous sommes régulièrement partenaires. Entre-temps, le Centre Simone de Beauvoir a fermé ses portes en 1992, faute de financement, et en 2003, vous en rouvrez les portes pour reprendre ses missions d'archivage et de diffusion et d'y intégrer une mission d'éducation à l'image. Donc ce cycle Contre-champ, il fait la part belle aux archives du centre. C'est d'ailleurs le point de départ de cette programmation. Quelles diffusions ont connu ces films qui ont notamment longtemps été oubliés du fait de la fermeture du centre pendant 10 ans?
Merci donc de m'inviter à commenter un peu ce cycle Contre-champ. D'abord, je voulais juste donner deux précisions. Le film « Sois belle et tais-toi » ne date pas du tout de 80, mais bien antérieur. Il a été filmé en 1975 et 1976 à Hollywood et à Paris. Et il est sorti en 77. Et en fait, 1981, je vous le dis, c'est une erreur qui se promène sur Internet depuis des années, contre laquelle on se bat, mais on n'arrive pas à rétablir la vérité, parce qu'en fait, en 81, il est sorti quelques semaines dans une salle, voilà. Et donc, cette date a été retenue, mais pour bien montrer justement la pertinence de Delphine Seyrig et de Carole Roussopoulos et de Johanna Weder, puisqu'elles ont travaillé toutes les trois sur le film, c'est bien de dire que c'était vraiment 75-76 le tournage et 77 la fin du montage, parce qu'elle avait beaucoup d'heures de rush. Et l'autre chose aussi que je voulais préciser, c'est que je n'ai pas co-créé le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. J'ai été embauchée, j'étais jeune étudiante en archives audiovisuelles, et donc j'ai été embauchée. Donc effectivement, j'étais là avec les fondatrices, mais je ne peux pas être considérée comme une cofondatrice. Par contre, en 2003, comme vous l'avez fait remarquer, c'est bien moi avec d'autres personnes, donc des personnes qui sont encore, qui travaillent encore pour le Centre, comme Laetitia Puertas, Sophie Laurent, mais aussi deux personnes du CA, du Conseil d'administration, Marie-Bonne Ouattelès et Annick Ensel, Alice Boudadi, qui est ma coprésidente, qui ont aidé justement à cette réouverture. Ce que je voulais vous dire aussi, quand vous m'avez présenté, c'est que oui, j'ai travaillé pour le Festival de films de femmes de Créteil, mais j'ai travaillé pour beaucoup d'autres festivals, et surtout des festivals dits de minorité, donc Racine Noire, qui était un film sur les réalisateurs et actrices de la diaspora noire. J'ai travaillé aussi aux Antilles, dont Image Caraïbe, qui était aussi un festival sur toute la production caribéenne, francophone, hispanophone, lusophone, néerlandophone. Et puis j'ai travaillé aussi dans plusieurs festivals de documentaires, donc, et aussi j'ai participé donc, à la fondation du festival qui maintenant s'appelle Chéri Chéri, mais qui est le festival de films gays lesbiennes de Paris dans les années 90. Et pour répondre à la question de la diffusion, qui est une question très intéressante et très pertinente, évidemment on se demande comment ces vidéos, puisqu'à l'époque, il faut quand même se rappeler que donc Carole commence à faire des films vraiment en 69-70. Carole Roussopoulos, donc une des fondatrices, il n'existe pas de vidéoprojecteur dans les salles de cinéma, donc, et ça jusqu'aux années 80, donc il faut en fait installer à chaque fois des moniteurs, donc en fait des moniteurs c'est des petites télévisions qu'on va relier entre elles, on va mettre des magnétoscopes avec les bandes vidéo, donc c'est toute une installation technique, il faut porter tout ça, etc., mais c'est possible, ce qui fait que des salles de cinéma étaient équipées, mais aussi des universités, des lieux comme des maisons, en fait ça pouvait très bien se tenir dans une cuisine aussi, des lieux, des entreprises, et il y a beaucoup de diffusion. Donc évidemment, il n'y a pas de billetterie CNC, on ne peut pas dire quels sont les chiffres exacts, mais on sait par les personnes qui ont vu ces films à l'époque, bah, par exemple moi ou d'autres, des tas de groupes en France, mais aussi à l'étranger, puisque les films circulaient beaucoup à l'étranger, qu'en fait, il y a eu des diffusions très importantes de tous ces films, Azo et Miso que vous avez cités, Sois belle et tais-toi, et voilà, donc la diffusion existait. Évidemment, l'apparition des vidéoprojecteurs dans les années 80 va donner un coup de boost parce que dans les salles de cinéma, on va pouvoir montrer en fait ces films. Mais ce sera toujours un espèce de circuit parallèle mais très actif. Il va d'ailleurs exister un collectif qui s'appelle Mon Œil, qui va réunir en fait des bandes vidéo et des films 16 mm de plusieurs entités, donc des féministes mais aussi des anarchistes, des gens d'extrême gauche, des pacifistes, des gens contre par rapport à l'environnement, et tous ces gens-là vont être réunis dans un collectif parce qu'à l'époque il fallait aussi, chose qui nous paraît maintenant un peu bizarre, aller à la poste, aller au CERNAM qui était un service de la SNCF qui transportait des objets, pour en fait transporter ces objets, ou alors fallait prendre sa voiture et aller se promener en France ou en Europe pour porter ces films. Mais ça n'a pas empêché les films d'aller jusqu'aux États-Unis, en Amérique du Sud, etc. Donc il y avait vraiment un circuit militant très très efficace.
Et à partir de la fermeture du centre qui a eu lieu pendant 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé avec ces archives? Est-ce qu'elles ont quand même connu une diffusion?
Alors heureusement, non, alors elles n'ont plus connu de diffusion, sauf des films, certains films de Carole, parce que Carole avait gardé des masters et des copies. Mais les films, heureusement, ont été sauvés par le Centre National du Cinéma, qui on peut rendre hommage, parce qu'en fait, le Centre National du Cinéma a épongé les dettes du centre à cette époque-là, donc, et a mis en fait à l'abri dans dans un lieu de stockage en fait qui est à Bois d'Arcy. Donc c'était en fait dans un lieu de stockage, et quand on les a récupérés, alors je vais pas vous raconter toute l'histoire parce que ça serait trop long, mais en tout cas quand on les a récupérés à pas mal d'aventures, on a ouvert les cartons en fait et on a commencé à voir ce qu'il y avait dedans, dans quel état c'était, à faire des inventaires. Et le dernier inventaire, je le dis parce que c'est assez amusant, le dernier inventaire avait été fait par des déménageurs qui avaient mis ça dans des boîtes. Donc c'était des personnes qui, évidemment, voyaient des titres, etc. Donc on a des titres un peu fantaisistes par moment. Mais en tout cas, on les remercie d'avoir fait ce boulot parce qu'ils ont pris la peine de tout écrire. Et ça nous a été très utile après. Évidemment, on a retrouvé des bandes vidéo qui est beaucoup plus fragile, la vidéo est beaucoup plus fragile que le cinéma, dans des états plus ou moins précaires. Et heureusement, on a passé très vite, en 2005, un accord avec la Bibliothèque nationale de France et le service audiovisuel, qui s'appelle maintenant Multimédia Photo Images, je ne sais plus exactement. En tout cas, ce service, donc, qui existe toujours, on a passé une convention, et c'était le premier en fait, organisme militant qui acceptait de déposer ses films au dépôt légal, et contre ce dépôt, on pouvait numériser en fait ces collections, puisque c'est de la bande vidéo vraiment des tout débuts, donc qui est vraiment extrêmement fragile, qui n'est pas très bien définie, etc. Donc il fallait vraiment les sauvegarder.
Tout a été numérisé.
Oui, c'est une très bonne question, parce qu'on est en fait à la fin de la numérisation de toutes ces vidéos, parce qu'on a plus de 2500 en fait, titres hein, quand même dans nos archives, dont 400 qui sont en diffusion. Les autres sont accessibles à des chercheurs, à des productrices, réalisatrices, réalisateurs, enfin toute personne qui fait des recherches ou qui en a besoin pour des nouveaux films. Et donc c'est Maintenant, il y a la question aussi de la restauration, qui est une autre partie dont moi, je m'occupe et qui est aussi une de mes spécialités. Donc, numériser, c'est très bien parce qu'on sauve. Et ensuite, la restauration de la vidéo, plus complexe que celle du cinéma, où il y a beaucoup moins de personnes qui savent le faire et où c'est des enjeux, voilà, ça prend beaucoup de temps, donc il faut beaucoup d'argent. Donc, on a fait quelques restaurations avec la Bibliothèque nationale de France, mais aussi avec le Centre Pompidou et aussi avec le ZKM de Karlsruhe en Allemagne, qui est un centre d'art qui a son propre petit labo de restauration. Mais on a encore beaucoup de films à restaurer. On continue de les montrer parce qu'on pense que c'est important, même s'il y a des états plus ou moins bons. On continue de les montrer et donc on convainc aussi les gens que s'ils veulent participer à la restauration, ils peuvent aussi faire des dons, etc. Parce que voilà, il faut après financer tout ça, quoi.
Oui, parce que ce format de la vidéo légère avec lequel le collectif des Insoumuses a commencé à tourner, c'était des formats du coup qui étaient très fragiles, donc qui impliquent aussi une dégradation assez forte dans le temps si on n'en prend pas soin.
Alors je voulais repréciser parce que les Insoumuses en fait est mis un peu à tout, c'est un peu normal. Hein. Tout le monde en parle comme un collectif. En fait, c'était un nom d'un collectif informel qui bougeait. Les trois qui ont souvent été là, c'était Carole, Johanna et Delphine. Mais ça n'est pas une association déclarée, etc. Et avant les Insoumuses, Carole avait déjà travaillé pendant presque 5-6 ans seule ou avec son compagnon Paul Rossopoulos. Ensuite, Delphine Seyrig et Johanna Vider, qui se connaissaient déjà depuis très longtemps, vont faire un stage avec Carole, et c'est à partir de là qu'elles vont travailler toutes les trois. Et parallèlement à ça, il y a une autre association qui existe dès le milieu des années 70, c'est les Muses s'amusent, dont Carole ne fait pas partie à l'époque, mais qui sont d'autres femmes, donc Delphine, Johanna Vider et d'autres personnes, qui va servir de support à la création du Centre Simone de Beauvoir. Donc je le précise parce que c'est pas tout à fait pareil, donc voilà, pour l'histoire, pour les personnes qui ont été concernées, c'est important de remettre les bons noms avec les bonnes personnes. Mais effectivement, ce collectif reste, nous marque à cause de son nom, qui est quand même génial, cette trouvaille, qui vient en fait, c'est ce qu'on raconte, et moi c'est ce que m'ont raconté Paul et Carole Rossopoulos, d'une prononciation, Paul a voulu dire insoumise, et puis ça s'est transformé en muse, et comme tout le monde a trouvé ça génial, le nom est resté, c'est vrai que c'est un nom qui est beaucoup utilisé maintenant dans des tas de circonstances différentes. Alors vous parliez de l'état des bandes. Dans l'histoire de la vidéo, il y a eu énormément de formats différents. Au début, c'était des bandes, c'est-à-dire que c'était vraiment sur un noyau, donc très fragile, parce que quand on les déroulait, les enroulait, donc ça se détériore, ça colle, il faut le faire à la main, les décoller. Il y a des champignons, enfin bon, il y a toutes sortes de choses très intéressantes quand on aime les archives, mais moins drôles quand il faut les réparer. Ensuite, on est passé à des cassettes, donc c'était un peu plus stable. Et puis, on a surtout ce qui a changé, ça vous le savez, c'est la définition de l'image. Donc, on dit souvent que la vidéo est une image pauvre, c'est vrai en termes de définition, mais nous on dit que comme le contenu est riche, ben voilà, ça pâlit. Donc au bout d'un moment, on oublie qu'il y a des défauts, que le son, ça se garde beaucoup mieux que l'image, visiblement, enfin dans ce que j'en sais. Mais voilà, une fois qu'on voit ces films engagés, ces personnes qui parlent, ces paroles qui sont quand même uniques, ben le côté évidemment technique, on l'oublie un petit peu. Mais pour nous, il est quand même important de veiller à ce qu'on donne la meilleure qualité possible. Et dans les films qu'on va voir, donc dans cette édition donc de Contre-champ, on a à chaque fois mis les meilleurs éléments qu'on avait, mais il y a certains films qui sont abîmés.
Jack Warner, le chef de studio, voulait que je mette des faux seins. Ben, il n'aimait pas des femmes avec des petits seins. Alors c'était très clair, j'étais un produit du marché et il fallait bien que je m'arrange pour me rendre commerciale.
People are not too drawn to mature women's bodies. I mean, they really like 19-year-old bodies, women's bodies. I mean, Mastroianni is still attractive in his 50s.
Vous parliez de Carole Rossopoulos et de Delphine Seyrig. Nous, on constate depuis le mouvement MeToo en 2018 et la revalorisation progressive de la place des femmes dans le milieu du cinéma. La figure de Delphine Seyrig, elle a été beaucoup remise en valeur pour son travail d'actrice. Elle reste jusqu'à aujourd'hui l'iconique Fée des Lilas dans Peau d'âne de Jacques Demy, On vous informe aussi d'ailleurs que le film Aloïs de Liliane de Kermadec, dont elle tient le rôle-titre, va faire l'objet d'une ressortie en salle ce 8 mai. On met aussi beaucoup en avant maintenant son activité de militante, donc notamment avec le collectif Insoumise dont on parlait, où elle a réalisé donc, entre autres « Sois belle et tais-toi », donc tournée et montée entre 1975 et 1977, où de nombreuses actrices hollywoodiennes parlent du sexisme qu'elles subissent dans leur métier. Delphine Seyrig fait aussi l'objet de l'ouverture de ce cycle avec le film « Calamity Jane » et Delphine Seyrig « A Story », donc une histoire, de la réalisatrice franco-américaine Babette Mangol, qui revient sur le projet de Delphine Seyrig de réaliser un film sur la relation entre Calamity Jane et sa fille. Quel regard est-ce que vous portez, vous, sur cette revalorisation et cette remise en avant un peu au premier plan de la figure de Delphine Seyrig?
Alors moi, je suis extrêmement contente, d'abord parce que j'ai eu le privilège de travailler avec Delphine Seyrig, donc je suis vraiment très heureuse qu'on reconnaisse en fait son apport considérable à la vidéo féministe et puis aussi à cette réflexion sur qu'est-ce qu'être une comédienne qui trouve beaucoup d'écho actuellement puisqu'en fait quand on ferme les yeux et qu'on les entend parler on peut très bien croire que ce sont des paroles actuelles et puis le fait qu'elle ait croisé des Françaises et des Nord-Américaines donc des personnes des États-Unis du Canada donne aussi une autre valeur aussi à ces portraits parce qu'on voit que les problématiques sont exactement les mêmes d'un côté et de l'autre de l'océan Atlantique. Alors le mouvement MeToo évidemment bien sûr c'est génial parce que ça remet en avant non seulement Delphine Seyrig mais aussi pas mal de nos vidéos, pas mal de films qu'on a chez nous et d'autres réalisatrices ou des collectifs comme Vidéa aussi auxquels je pense. Il y a aussi autre chose qui a participé à la remise en avant de Delphine Seyrig, c'est le film de Callisto McNulty, Delphine et Caroline Soumus, que vous connaissez, qui est donc un film fait uniquement à base d'archives et qui a ce côté extraordinaire parce qu'il a restitué donc, l'amitié entre Carole et Delphine à travers ce film et leur travail entre elles deux, mais aussi avec Yona Vider et d'autres personnes, bien évidemment. Donc c'est la conjonction en fait, de ces deux faits, le mouvement MeToo, le film de Callisto, et puis aussi, j'espère, tout le travail qu'on fait depuis 20 ans au centre, je pense que ça a aidé un petit peu quand même, de remettre en avant non seulement la figure de Delphine Seyrig, évidemment comédienne de théâtre, actrice de cinéma, mais aussi réalisatrice elle-même, donc engagée, aussi, c'était aussi une défenseure des droits humains, donc c'est quelqu'un qui avait plusieurs casquettes, elle chantait aussi. Il y avait plusieurs casquettes et donc on est contente que maintenant on voit une Delphine plus entière, quoi, pas coupée en petits morceaux. Parce que pour elle, ce qui importait, c'était aussi justement d'être à la fois cette comédienne de théâtre, cette femme aussi engagée sur les plateaux, ce qui lui a coûté assez cher, mais aussi cette réalisatrice militante et cette défenseure des droits humains. Donc c'est vraiment quelqu'un qui était sur beaucoup de fronts. Et on a aussi la chance de son fils, donc Duncan Jungerman, à garder, parce que Delphine gardait tout, donc il y a énormément d'archives en fait encore qui ne sont pas explorées. Là je parle plus des archives papier qui permettent donc de retrouver ce travail de Delphine. Et pour revenir au film de Babette Mangold, donc en fait c'est parce que Duncan a retrouvé chez lui des bobines film. Donc il m'a appelé en me disant j'ai des bobines, je sais pas, il y a marqué Calamity dessus, tu vois ce que c'est. Alors évidemment, moi j'ai fait comme bon, dès qu'on trouve des nouvelles choses, je suis toute contente. Donc on a fait venir les bobines et donc je lui dis bah oui, c'est le projet qu'elle avait commencé à faire puisqu'elle voulait faire un long métrage en fait sur l'histoire des lettres de Calamity Jane à sa fille. Même si on sait maintenant que peut-être c'est des fausses lettres, etc. Peu importe, mais en tout cas c'était cette histoire qu'elle voulait raconter. Et à partir de là, on a retrouvé aussi des du son, donc ça on l'a fait numériser en Belgique, je me rappelle à l'époque parce que c'était délicat, donc on a trouvé une boîte qui était vraiment spécialiste de ça. Et ensuite j'ai passé avec Duncan et moi, nous avons passé quelques années à essayer de convaincre Babette Mangold, qui est quelqu'un qui elle a plus de 80 ans maintenant, mais je crois 83, elle fait énormément de choses, elle enseigne encore, elle est photographe aussi, hein, c'est une grande photographe, elle enseigne, donc elle photographie, elle fait des films, donc évidemment elle avait jamais le temps. Et puis ben, un jour elle s'est vraiment penchée dessus et c'est là qu'elle a décidé non pas de remonter le projet tel que Delphine l'avait, parce qu'on a le synopsis du projet, mais d'ajouter aussi, elle, son apport en tant que Française vivant aux États-Unis et travaillant. Donc elle, c'est une grande spécialiste aussi de la danse. Elle a beaucoup filmé dans les années 70 des compagnies de danse américaines, de danse contemporaine, pas classique. beaucoup fait de photographie, donc elle voulait aussi apporter un peu son, voilà, moi Babette Mangold par rapport à ce film. Et donc vous savez que c'est aussi la cadreuse de Jeanne Dielman. Donc c'est une femme voilà, qui a beaucoup aussi de cordes à son arc, qui était très proche de Delphine, et elle a fait ce film que, enfin, que moi j'apprécie beaucoup. Et j'ai trouvé que c'était vraiment son point de vue à elle, et c'était une très bonne idée de faire ça, plutôt que de vouloir absolument terminer le film de Delphine, dont on ne sait pas très bien. Delphine, il y avait ce scénario, mais est-ce qu'elle n'aurait pas fait autre chose après? En fait, on a juste un petit, on avait juste des petits bouts d'essai en fait, qu'elle avait en fait montés pour chercher de l'argent, mais tout en étant Delphine Seyrig, bah, elle n'avait pas trouvé assez d'argent pour le faire. Donc, puis après, bon, elle est tombée malade, etc. Et donc, elle n'a malheureusement pas pu le finir. Mais moi, je suis très contente du travail qu'a fait Babette Mangold sur ce film.
Il y a notamment cette archive fascinante au début où elle est dans cette maison aux États-Unis. Elle interview spécialiste de Calamity Jane.
Oui, elle interview des personnes qui l'ont rencontrée, ouais, en fait, qui ont connu des personnes de sa famille. Enfin, il y a toute une recherche. Elle s'est beaucoup documentée avant d'aller dans le Montana, donc pour tourner ça. Elle va aussi retrouver les écrits supposés de Calamity Jane dans une banque. Enfin, il y a plein d'épisodes comme ça qui sont très amusants, et en même temps, on sent, voilà, que cette figure de Calamity Jane était quand même une figure importante, et que Delphine était très inspirée par l'histoire de cette femme qui, tout en ne s'occupant pas de son enfant, écrivait quand même à sa fille, racontait tout ce qu'elle avait fait, elle s'habillait en homme, etc. Donc il y a toute une mythologie autour de Calamity Jane qu'elle a vraiment bien contribué à remettre en avant, je pense. Au centre, on a effectivement des films qui démarrent en 70, mais on a toujours des nouveaux films qui entrent. C'est-à-dire que nous-mêmes, on va chercher des films, on va dans des festivals, on a des réseaux aussi de personnes qui nous disent « on a fait telle chose, il y a quelqu'un qui est en train de monter tel film ». On a aussi toutes les personnes qui viennent chercher des images chez nous, donc on sait les choses qui sont en train de se faire et on essaie ensuite de les voir. Et puis il y a aussi nos déplacements. Moi, par exemple, là, j'étais au Mexique il n'y a pas longtemps, donc j'ai rencontré des réalisatrices mexicaines, j'ai vu des films, donc on va essayer de les faire venir. Après, quelqu'un d'autre peut aller dans un autre pays, ou je sais pas, aller dans un festival repérer d'autres films. Donc en fait, quand on parle de confronter les archives du centre, en fait, nous-mêmes, déjà, on confronte dans notre propre archive des films contemporains et des films faits dans les années 70-80. Et puis après, par contre, l'apport qui est important, c'est d'autres groupes. Vous avez cité La Poudrière, voilà, qui ont une autre façon de travailler, qui peuvent travailler aussi sur de la pellicule, même si maintenant, la différence entre le numérique et la pellicule, c'est moins pertinent. Mais en tout cas, voilà, ça fait d'autres ouvertures aussi pour nous.
Donc effectivement, ça me fait embrayer sur la question du format. Donc on l'a dit, les premières vidéos archivées au Centre Simone de Beauvoir étaient des formats vidéo faits avec des caméras portatives, ce qui était très nouveau dans les années 70 et donc réapproprié par ces réalisatrices. Qu'est-ce que vous constatez donc comme évolution de ces formats? Justement, la question du format, c'est quelque chose de très important dans le film militant.
Alors je pense qu'il y avait beaucoup plus de différences à l'époque, parce que donc il y avait quand même la tradition du 16 mm pour les militants et aussi pour les journalistes, le reportage. Donc il y avait beaucoup de gens qui filmaient en 16 mm, il y avait aussi des gens qui filmaient en Super 8, mais c'était plutôt le côté cinéma non narratif expérimental, mais pas que. Et donc quand la vidéo arrive, donc la vidéo, bah, elle est calquée sur les caméras de télévision, en fait c'est une réduction, on peut dire, c'est la firme Sony qui a eu cette bonne idée, donc de réduire en fait ces caméras. Et ces caméras, vous l'avez noté tout à l'heure, elles avaient l'avantage, et la vidéo en général, de ne pas être enseignées dans les écoles de cinéma qui étaient quand même majoritairement masculines, enfin si c'est pas 99%. Donc personne ne savait vraiment trop comment s'en servir, et d'ailleurs Sony n'avait pas vraiment prévu le montage. Donc il y avait beaucoup de bidouillage au début pour monter en fait ce qui était tourné, ce qui a donné une plus grande liberté à la fois aux militants, militantes, activistes, je pense aux Black Panther, aux Palestiniens, aux féministes qui ont tourné sur ces supports, et également aux artistes, puisqu'on a en parallèle un mouvement d'artistes qui s'approprient aussi la vidéo telle qu'elle est, donc dans les années 70. Et d'ailleurs, ces gens-là vont se croiser sur des bancs de montage, parce qu'à l'époque, ça coûtait cher, les bancs de montage. Donc il y avait des bancs de montage qui marchaient presque en 3-8, on va dire, où il y avait les artistes qui passaient à une heure, des militantes féministes à une autre, des gens d'extrême gauche à un autre moment. Et donc voilà, ça tournait sur les bancs de montage. Maintenant, je trouve que la différence entre du cinéma militant, des documentaires, et par rapport au support, hein, je veux dire, est moins visible. D'abord parce qu'on peut même faire un film, si on veut, avec son téléphone portable, si on a un bon téléphone. Donc on peut aussi avoir une facilité d'enregistrement. Les caméras donc sont beaucoup plus accessibles financièrement. Voilà, on a besoin de... Évidemment, moi, je dis toujours aux gens jeunes qui nous posent la question, formez-vous techniquement, parce que je pense que c'est important. J'ai moi-même été preneuse de son, donc je sais que c'est vraiment important de, d'avoir une formation, puisque moi, j'en avais pas une, j'ai appris sur le tas. Ça me semble moins pertinent, l'histoire des formats, et j'ai l'impression que du côté de la création du documentaire ou des films engagés, ça peut être des formats très divers. Il y a des gens qui vont tourner avec des appareils photo, donc des caméras, d'autres qui vont tourner avec des caméras plus professionnelles, donc du semi-pro, ou comme je disais, des gens vont tourner avec leur téléphone. On le voit par exemple dans des moments où on ne peut pas avoir de caméra visible, comme je pense aux femmes iraniennes, enfin pas qu'aux femmes, d'ailleurs aux femmes et aux hommes iraniens qui se battent contre l'État iranien. Voilà, on prend un téléphone parce qu'on ne peut pas non plus avoir beaucoup de visibilité, et on arrive à faire des choses qui peuvent très bien être exploitées en tant que film ensuite, même si on mélange des formats. Là où je vois le plus d'inventivité, c'est chez les gens qui font du cinéma non narratif ou expérimental. Ça a toujours été le cas d'ailleurs, puisque les gens travaillaient vraiment sur la matière elle-même, et même en vidéo, j'ai l'impression que c'est là qu'il y a plus d'inventivité. Après, il y a du côté, je reprends le film de Callisto McNulty, les personnes qui travaillent que sur des archives, je trouve ça aussi extraordinaire, parce que par exemple dans ce film-là, il n'y a pas de narration. C'est-à-dire que tout est expliqué par les archives, on n'a même pas besoin d'avoir un fil conducteur. Donc ça, c'est une forme de cinéma pour moi particulière.
Pour rebondir, c'était la porte à pack, c'est ça?
Oui, le ou la porte à pack, je sais pas
comment on le...
Au féminin ou au masculin.
On le genre.
On va le mettre au féminin, allez hop.
On va dire la porte à pack, ouais, de Sony, qui selon la légende, je sais pas si c'est exactement vrai, Carole Roussopoulos aurait été la deuxième après Godard à l'utiliser.
Je pense que c'est vrai, en tout cas, ils ont acheté
c'était les tout premières. Mais parce que au départ, quand dans cette utilisation de la vidéo et appropriation, en tout cas par les femmes de ce format-là, il y avait l'idée de documenter les luttes. Et à quel moment l'expérimentation s'est glissée dans cette documentation et cette réappropriation?
En fait, moi je dirais pas les femmes, je dirais les féministes, certaines féministes s'emparent de ces caméras. Bon, d'abord parce que, comme je disais, il n'y a pas d'école de cinéma, donc on ne va pas leur dire fais comme ci, fais comme ça, non, c'est pas ça. Donc ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup d'erreurs et de problèmes dans les premières vidéos, mais bon, peu importe. Et en tout cas, elles vont documenter en fait leur propre lutte, parce qu'en fait, Carole, Johanna, Delphine, Videa et d'autres collectifs, Videa 00, elles étaient dans ces luttes, en fait. C'est comme si elles s'auto-documentaient. Elles ne sont pas un peu... Je prends souvent cette comparaison comme un entomologiste qui regarde des insectes dans un bocal et qui va regarder comment elles se comportent. Elles sont... D'ailleurs, on le voit quand elles filment les manifestations. Elles sont dans le cœur des manifestations. Elles sont impliquées. Elles savent de quoi on parle. Donc, elles n'ont pas cette distance qui, parfois, est bonne. Mais en tout cas, voilà, elles sont mêlées aux événements. Donc, c'est vraiment... utiliser ces caméras, parce qu'elles se rendent compte aussi d'un autre avantage des caméras, donc où il n'y avait pas d'école, comme je disais, mais il y avait aussi le fait qu'on pouvait voir immédiatement ce qu'on avait fait, c'est-à-dire qu'on pouvait tout de suite, ça nous paraît banal aujourd'hui puisqu'on peut regarder tout ce qu'on a fait, l'effacer, recommencer, mais à l'époque c'était révolutionnaire. On n'avait donc pas besoin d'aller au laboratoire, de payer un labo, d'attendre qu'on développe les rushs, d'aller dérusher, de regarder qu'est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce qu'on va pas regarder. Et là on pouvait montrer aussi, et ça c'est très important dans la démarche notamment de Carole, puisque moi, j'ai longtemps travaillé avec elle, c'était de montrer aux personnes filmées et de leur demander si elles étaient d'accord pour qu'on utilise ces images-là, avant même de faire le montage. Et puis, parfois, quand on n'avait pas le temps, c'était une fois que le montage était fait, mais en tout cas, elles pouvaient toujours effacer s'il y avait quelque chose qui ne convenait pas. Mais c'était, voilà, le côté... Alors, vous parliez du côté des expérimentations. Alors, les expérimentations en vidéo sont souvent dues à des pannes ou à des erreurs. C'est-à-dire qu'on découvre à l'occasion d'une panne ou d'une erreur, tiens, on pourrait faire tel effet. Alors ça, c'est beaucoup les artistes qui l'ont utilisé, mais aussi des militants qui se sont amusés. Bon, il y a des films, par exemple, comme tous les films faits sur les LIP. Je pense que Carole a découvert à cette époque-là qu'on pouvait faire des volets, en fait. Et donc, on a dans le film plein de volets, mais qui marchent très bien. Hein. Mais on sent que c'est un truc nouveau. Donc, elle a découvert et hop, elle se met à faire ça, puisque les machines évoluaient. En fait, l'histoire de la vidéo aussi, c'est une histoire évidemment économique et de capitalisme. C'est-à-dire que chaque grosse firme, après Sony, va vouloir sortir sa machine, son format. Donc, il y a un nombre de formats invraisemblables. Et puis, il y a aussi un nombre de machines. Voilà. Donc, on peut expérimenter des nouvelles machines, des nouveaux supports. Et on va avoir une évolution quand même des formats vers une meilleure qualité d'image et de son au fur et à mesure. Mais ça n'empêchera pas les personnes de faire des expérimentations. Et puis, elles ont aussi ce goût pour les choses très manuelles. Vous avez remarqué peut-être dans Mazo et Miso vont en bateau, tout est écrit à la main. Dans Sois belle et tais-toi, c'est pareil, c'est écrit à la main, alors qu'elles auraient très bien pu le faire autrement. Mais donc il y avait aussi ce goût, c'est un côté très artisanal.
Oui, et d'ailleurs on peut croire de prime abord que le cinéma militant, justement parce qu'il est articulé autour d'une idée politique, échappe à l'idée d'une critique esthétique. Et pourtant, ce qu'on retient de toute cette programmation de contre-champ, c'est que le cinéma militant, justement, c'est ce que vous disiez, il a toujours été lié à une recherche expérimentale, justement une manière de tordre un peu les règles classiques du cinéma, de la narration, pour faire naître des nouveaux récits. Je pense par exemple au film d'Anna Salzberg, Le jour où j'ai découvert que Jane Fonda était brune, il y a notamment toute cette scène où elle dialogue avec des collectifs féministes de l'époque de sa mère qui vont lui répondre en chanson, donc on est aussi à la limite de la comédie musicale. Pour faire des ponts, voilà, donc vous parliez de Mazo et Miso vont en bateau, il y a tout un détournement, donc c'est un film qui est un détournement en fait d'une émission de Bernard Pivot avec Françoise Giroud qui était alors secrétaire d'État à la condition féminine. Il me semble que c'est Carole Roussopoulos qui réalise et monte ce film-là, et en fait elle utilise tous les moyens possibles du montage, des répétitions, des coupes, des accélérés pour faire ressortir toute cette toute la misogynie et toutes les contradictions de ce qui est dit sur le plateau à ce moment-là. Donc il y a vraiment ce lien entre militantisme, enfin faire du militantisme et faire du cinéma expérimental, qui est aussi lié à des questions financières, justement en dire plus avec peu de moyens.
Oui, puis dans Mazo et Miso vont en bateau que vous citez, il y a aussi beaucoup d'utilisation du son, on ajoute des images, on ajoute des rires, on ajoute des voix, et dans les façons aussi qu'on pourrait, je pense qu'elles auraient jamais dit elles que c'est expérimental, hein. Même Scum Manifesto par exemple, c'est une performance. Carole et Delphine, elles n'ont jamais dit ça à l'époque, mais c'est vrai, quand on le voit maintenant, c'est que c'est vraiment une performance. Mais je repense aussi à Sois belle et tais-toi, où il y a quelque chose de très étonnant par rapport à la façon dont on monte maintenant. C'est laisser des gens développer leur idée, ça on le voit dans beaucoup de films des années 70-80. C'est-à-dire qu'on ne coupe pas les personnes, elles ont le temps de réfléchir, même d'hésiter, de recommencer, etc. Et tout ça est gardé volontairement. Et une des grandes batailles d'ailleurs qu'on a eues quand on a réouvert le centre, c'était, je me rappelle très bien de Carole me disant, non mais là Nicole, mais c'est trop long là, pourquoi j'ai laissé tout ça là, non, on devrait le couper. J'ai dit, alors là Carole, c'est trop tard, le film était comme ça à l'époque et il faut le garder tel qu'il était à l'époque, même si maintenant évidemment peut-être qu'on couperait quelque chose, etc. Donc il y avait aussi, voilà, on est déformé après par la contemporanéité, parce qu'on se rend compte que ça va beaucoup plus vite, et donc même la propre réalisatrice, une propre réalisatrice comme Carole, je disais, ah non non non, mais là j'ai mis des trucs trop longs. Et donc bon, en fait, quand évidemment elle a jamais touché à ses films, mais et puis il y a aussi peut-être dans l'expérimentation, comme je disais, il y avait aussi l'histoire du coût en fait, à l'époque, qui faisait que ça c'est aussi peut-être quelque chose de plus négatif, c'est-à-dire qu'elles ont beaucoup réutilisé des rushs, pardon, pour faire des nouveaux films, et donc nous on aimerait bien sur certains films voir les rushs, mais en fait ils ont été réutilisés, donc ça c'est un peu le côté moins drôle de l'affaire. Mais voilà, on allait pas racheter à chaque fois plein de monde vidéo, donc on utilisait des bandes qui avaient déjà été montées, et parfois on retrouve sur certaines bandes des morceaux en fait d'images d'une autre vidéo. Donc c'est un peu un jeu de... Voilà, souvent, Peggy Préau, qui chez nous travaille sur les archives et la diffusion, m'appelle en me disant, est-ce que tu connais telle personne? Est-ce que tu vois d'où ça vient? Donc c'est un peu un jeu de... Parce qu'on ne se rappelle pas forcément, donc on essaie de faire marcher la mémoire de tout le monde. Qu'est-ce que ça peut bien être, ce petit bout, avec des personnes qui disent telle ou telle chose?
Mais c'était aussi la preuve d'une grande liberté, de pouvoir créer oui, ça... que cette manière-là...
Évidemment, elles étaient très libres dans la façon dont elles faisaient. C'est quand même des personnes qui ont mis leur argent personnel dans la création de ces films. C'est-à-dire qu'elles auraient pu très bien faire des voyages, je ne sais pas, s'acheter des fringues, faire d'autres choses. Donc elles ont quand même investi dans ces vidéos. Et donc elles avaient cette liberté aussi, il n'y avait pas la contrainte non plus de la salle de cinéma, mais elles avaient quand même ce souci que les films soient vus, c'est-à-dire c'est pour ça qu'ils ont beaucoup été vus, beaucoup été utilisés, qui continuent à l'être. Mais à l'époque, c'est pas du tout des films qui restaient dans des placards, au contraire, ça circulait beaucoup, ça servait de base à d'autres discussions, l'idée étant que certaines luttes, par exemple je pense à la lutte des LIP, c'était intéressant que des gens qui n'étaient pas à Besançon, donc dans le Doubs, je sais pas, à Bordeaux, à Toulouse, où il y avait d'autres grèves, voient ce qui se passait dans cette usine-là, et ça donnait aussi des idées en fait. Ou quand c'était les travailleuses de la mer en Bretagne, d'autres, je sais pas, femmes qui travaillaient, je sais pas, à Marseille ou à Toulon, pouvaient voir ce qui se passait dans d'autres régions de France. Et là, je ne parle que de la France. Parce que dans le travail des Insoumuses, des Musamuses, de Carole, Delphine, etc., Il y a toujours eu cet enjeu de la transnationalité et de l'international qui est présent dès le début. Parce qu'on a souvent dit, ah oui, c'est des grandes bourgeoises blanches qui travaillent que sur des problématiques franco-françaises. C'est absolument faux, en fait. Elles ont tout de suite travaillé avec d'autres pays. Il y avait beaucoup de liens avec les États-Unis notamment, mais aussi elles ont travaillé aussi avec les Black Panthers. Enfin, il y a vraiment eu, voilà, avec le Portugal, avec des Allemandes. Enfin, il y avait vraiment une grande circulation.
Pour revenir à la programmation du cycle, en février dernier, nous, pour notre épisode dédié au Festival de Clermont-Ferrand, on parlait avec Nathalie Mazduro et Valérie Urrea du court-métrage comme un format plus facile d'accès pour les réalisatrices et pour porter des discours engagés. Cette édition avait d'ailleurs mis les réalisatrices à l'honneur et plusieurs courts-métrages de cette édition de Clermont sont reprogrammés à l'occasion du cycle Contre-champ. On y trouve notamment le film Petit Spartacus de la réalisatrice française Sarah Ghanem. Diane, ça avait été un de tes coups de cœur de cette édition du festival.
Oui, oui, bah justement, je parlais de liberté. Je trouve que c'est un film très, très libre que Sarah Ghanem a réalisé, qui est une sorte de voyage, de road trip à vélo où elle discute avec son vélo grec qui parle le grec et qui chante le grec quand il est triste. Et c'est un film qui cache derrière un grand traumatisme, derrière toute cette fantaisie, un traumatisme enfoui qu'elle cherche à réparer, qui est un drame violent qu'elle a vécu en tant que femme. C'est un film très très fort qu'il faut absolument voir et je trouve ça super qu'il soit aussi montré dans ce cadre-là.
Mais d'ailleurs, quand on voit ce film, en fait, moi je dis jamais ce que vous venez de dire. Parce qu'en fait, moi je n'avais rien lu sur le film volontairement avant. Et donc, j'ai été menée par le bout du nez jusqu'au bout. Et même à un moment donné, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle veut nous dire ? Et tout d'un coup, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait arriver, mais je ne savais vraiment pas quoi. Et donc, je trouve que c'est très fort de sa part. Et en plus, il y a à la fois l'image, le son est intéressant. Et il y a une espèce d'humour un peu grinçant parfois, mais qui nous tient. Et je trouve vraiment que c'est une grande réussite. J'étais très contente de le voir. Et pourtant, au début, j'étais là vraiment en train de me dire, bon, ok, d'accord, oui, tu nous as déjà dit ça, tu te répètes. Mais j'ai compris après en fait où elle voulait aller et c'est vraiment intéressant.
Et d'ailleurs, il faut le revoir justement. Enfin, aussi pour ça, parce que le revoir permet d'aborder le film d'une autre manière en sachant ce qui s'est passé. Et c'est un film vraiment à voir plusieurs fois.
Et ces histoires de vélo, il y a vraiment beaucoup d'autres choses derrière, oui.
Et on parlait tout à l'heure justement de faire des ponts transnationaux. Dans les séances spéciales, on trouve aussi le long métrage documentaire Les prières de Delphine de la réalisatrice belgo-camerounaise Rosine Bakam, dont on avait d'ailleurs été partenaire pour la sortie de son premier film de fiction, Mambar Pierrette. Diane, tu avais vu ces deux films, et notamment Les prières de Delphine.
Oui, oui, déjà, Rosine Bakam, c'est une réalisatrice camerounaise de documentaire. Elle a commencé à faire des films en Belgique, là où elle vivait, là où elle a étudié, dans la diaspora camerounaise. Mais tous ces films, en fait, sont des portraits de femmes et de femmes qui ont vécu de plein fouet, on va dire, le patriarcat, pour le dire avec des gros mots. Mais elle a commencé par faire un portrait avec sa mère, une sorte de double portrait sur elle et sa mère, avant de parler dans Chez Jolie Coiffure, sorti en 2018. Elle fait le portrait d'une coiffeuse qu'elle a rencontrée en Belgique et qui a été esclave au Liban. Et Les prières de Delphine, elle interviewe en fait une amie à elle qu'elle a rencontrée également en Belgique, également camerounaise, et donc c'est un interview où on est vraiment en face caméra sur le lit. C'est un format classique un peu de documentaire, mais en fait ça laisse la place à tout le propos et à tout le récit de vie de Delphine qui est assez fort, parce qu'en fait tu vois qu'elle a vécu toutes les violences possibles, sexistes, sexuelles, patriarcales à travers sa vie, fait de viol, et elle se confie en toute intimité là-dessus, et c'est vraiment un film très 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 puissant qu'a fait Rosine Mbaka. Mais elle continue, même avec son film Mambar Pierrette, qui est son premier film de fiction qui est sorti cette année, elle continue là, cette fois elle est allée au Cameroun, et on sent qu'il y a, voilà, il y a ce désir de montrer le quotidien de ces femmes qui est très très fort, en tout cas dans la manière dont elle le montre.
Et qu'il y a aussi une grosse part de documentaire, Mambar Pierrette, même si ça a effectivement la forme d'une fiction, il y a la réutilisation de plans fixes qu'on retrouve dans le documentaire, de beaucoup de faits du quotidien, de raconter la vie de ce village, donc ça convoque aussi beaucoup du documentaire comme ses précédents films.
Tout à fait, et puis enfin, surtout l'idée principale, je pense, de son cinéma, en fait, pour me reprendre, c'est de donner la parole aux concernés par les concernés. aussi, c'est-à-dire parce que c'est son regard à elle, de femme camerounaise, sur des femmes camerounaises. Et ça, c'est hyper important parce que là, tu vois à quel point le regard porté est différent et va être différent de l'exotisme qu'on a pu porter sur, sur les femmes africaines à travers l'histoire du cinéma. Et ça, c'est, ça change vraiment tout. Et cette histoire de regard, elle s'étudie, elle est vraiment passionnante.
Nicole, vous vous présentez donc pendant ce cycle plusieurs films qui sont archivés au sein de Simone de Beauvoir. Quel est votre regard, vous, du coup, sur, cette, sur ce programme et sur ce dialogue avec des films non seulement contemporains, mais aussi voilà, transnationaux.
Oui, justement, à ce propos, je voulais ajouter que c'est un, c'est, on a intitulé ça donc Contre-champ, film...
Contre-champ, lutte collective, film féministe.
Donc dans les luttes collectives, il y a aussi évidemment toutes les luttes, et ça fait partie des archives du Centre et des films contemporains qu'on a, qui sont toutes les luttes LGBTQI+, et les, du cinéma queer, on pourrait dire aussi. Donc ça aussi, c'est une partie importante dans la programmation. Et moi, je suis contente de cette programmation parce qu'on a beaucoup discuté, notamment avec Marion Bonneau, et avec, avec l'équipe du Centre, avec moi, donc d'essayer de trouver des équilibres. Donc c'était compliqué parce qu'on a beaucoup de séances, déjà on est très contents parce qu'on a vraiment beaucoup de séances, donc c'est super bien. Et puis c'est bien quand on a une carte blanche, mais on, voilà, il fallait aussi que Marion puisse mettre aussi ce qu'elle avait envie de montrer, et nous, donc on a, je pense qu'on est arrivé à un bon équilibre avec des choses qu'on montrera plus tard, mais en tout cas ça peut déjà donner une bonne idée de ce, que, de ce qu'est le fond du Centre, et aussi de comment effectivement les films peuvent se parler d'un pays à l'autre ou d'une façon de réaliser à une autre. Et je pense que les débats, enfin les, il y a des films sur lesquels il y aura des débats, ça va permettre aussi justement d'avancer un peu plus, de, voilà, de creuser un peu plus toute cette histoire. Et donc oui, je vais présenter plusieurs, plusieurs séances. Et alors en plus, on a des, il y a beaucoup d'anniversaires parce qu'il y a l'anniversaire de la Révolution des œillets au Portugal. Donc on va montrer un film, Les Trois Marias. Mais il y a aussi évidemment toute l'actualité justement sur les droits LGBT qui peuvent apparaître. Et puis comme vous le faisiez remarquer, ben voilà, les conjonctions entre différents pays, que ce soit des pays africains, que ce soit en Europe, on va retrouver des luttes en fait qui ont des choses à se dire ensemble. Et évidemment, tout le travail aussi des personnes qui travaillent sur des archives et qui les réactualisent ou qui les réutilisent pour raconter une histoire. Donc je pense qu'on a quand même un panel assez, assez étendu. Et puis des films, il y a quelques films aussi quand même, c'est pas que des sujets graves. Il y a aussi, on voit aussi l'humour féministe, et ça je tiens à le dire parce qu'on l'oublie souvent. On a parlé de Mazo et Miso qui en est un bon exemple, même si c'est de l'humour grinçant ou caustique. Mais en tout cas, il y a aussi cette, cette partie-là qui va être présente.
Ça montre bien les différents cinémas dont les féministes ont pu s'emparer. Enfin, ce qui paraît tout à fait logique, mais c'est bien de le remettre...
C'est bien de le redire et de le remontrer.
Le répéter.
Répéter.
Oui, et puis montrer que le cinéma militant, ou en tout cas le fait de porter un discours politique, effectivement ne se résume pas à un format rêche, austère, et à des sujets... difficile. On peut aussi en tirer beaucoup de joie.
Et puis, comme vous le disiez, il y a aussi toute l'inventivité aussi de certaines façons de monter, de certaines façons de filmer, de composer les films, de les écrire. Donc, on voit aussi vraiment toute une palette. Et l'activisme, donc, c'est pas ennuyeux, c'est pas rébarbatif, au contraire.
Et c'est une très bonne manière de conclure, donc c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup Nicole pour votre présence et pour votre participation. On peut donc vous retrouver à la Cinémathèque du documentaire de la BPI, où vous allez présenter plusieurs séances du cycle Contre-champ, qui, pour rappel, se tient du 19 avril au 4 juillet. Donc n'hésitez pas à consulter le programme, vous pouvez retrouver le lien dans la description de cet épisode. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut suivre du coup les actualités du Centre, par exemple ?
Tout à fait, alors vous pouvez suivre nos actualités sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et puis aussi sur notre site du Centre, enfin on a deux sites, donc le site du Centre Simone de Beauvoir, il y a un agenda, donc régulièrement on met nos actualités, des fois des actualités d'autres groupes, et puis avec nos salles partenaires en fait, Forum des Images, donc Cinéma de Luminor, et la Cité Audacieuse qui n'est pas une salle de cinéma mais comme vous le savez un lieu géré par la Fondation des Femmes où on fait aussi des projections régulièrement. Ça c'est à Paris, mais on fait des projections dans toute la France et dans le monde entier, donc quand vous voyagez, vous pouvez toujours nous retrouver à un endroit ou à un autre, où on retrouvait nos films, parce que ça circule beaucoup, beaucoup.
À bon entendeur. Merci beaucoup, Diane, d'avoir co-animé cette discussion avec moi.
Merci.
On se retrouve très bientôt pour le focus du mois. Attention, ça risque de chanter au micro. Et on vous donne aussi rendez-vous fin mai pour un débrief ensoleillé de la 77e édition du Festival de Cannes. D'ici là, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un gentil mot ou un 5 étoiles, à lire nos chroniques sur le site ou à nous suivre un peu partout sur les réseaux sociaux. À très bientôt.